une vue d'ensemble de l'évolution du territoire sur tout un tas de sujets, et puis les orientations générales déjà qui ciblent sur le PLUI un certain nombre de choses.
Peut-être pour répondre un peu plus précisément à la question, il y a actuellement déjà des groupes de travail qui fonctionnent, pas plus tard que cet après-midi, sur des thématiques comme l'agriculture. Il y en aura demain sur la forêt. Vous voyez, donc la forêt, on va parler construire, et on va parler quand même de la gestion de la forêt. Donc c'est bien plus large que construire ou pas construire. C'est vraiment l'aménagement, une vision globale sur l'ensemble de notre territoire.
Différents travaux parallèles, quoi. Différents.
Ah oui, oui, oui.
Ça fait, c'est une chose. Il y a...
On va parler des prairies dont ont besoin nos agriculteurs de montagne pour que les prairies, pour que les vaches puissent pourgoûter. On va construire de secteurs où on va pouvoir construire des usines ou pas. C'est vraiment beaucoup plus large. Hein, que de dire, ben, on va parler de construire ou pas construire. C'est l'ensemble de l'aménagement d'un autre territoire. On va parler de la dolaire, on va parler. Voilà, c'est.
Oui. On se retrouve avec une cause des terrains, des agriculteurs, des agriculteurs, il n'y en a presque plus.
Ben,
et d'ici deux ans, on enlève l'aide européenne, il y en aura encore moins. Et ceux qui sont en train de dire qu'ils se suicident, vous savez très bien dans la vallée.
Oui, oui.
Donc, surentêtés parce qu'ils n'arrivent plus à faire face. Ce n'est pas les terrains qui manquent. C'est les grandes surfaces qui manquent. Les petits lots par terre, les vergers, il n'y a plus personne qui les donne. Hein. Vous payez pour faucher. Vous payez pour faucher.
Ah oui, non mais.
Donc, il y a un autre mode de travail avec une machine, ça peut s'amuser à couper entre les arbres. Ça, c'est un truc qui est révolu. Hein. Donc là, je vois, pour en venir pour faire court, on voit qu'il y a des terrains qui sont sortis du permis de construire alors qu'ils sont depuis 40 ans. Les impôts étaient fixés pendant 40 ans sur les permis de construire. Là, on les sort, on réduit les périmètres, on retire chez certains, on agrandit chez les autres.
Là, juste on est là,
parce que c'est des terrains agricoles, non, parce qu'on dit que c'est du terrain agricole. C'est pas des terrains agricoles, bien souvent. Parce que les grands paysans veulent des grandes surfaces, ils veulent pas s'amuser avec des
pieds. Il y a pas que des grands paysans, il y a aussi des agriculteurs.
Oui, moi je suis petit. Ah, voilà. 3 ans, j'ai assez de terrain.
Mais j'en connais qui n'en ont pas assez.
Oui, voilà, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Les surfaces, ils peuvent travailler avec leurs machines. Donc il faut tout prendre ça en compte aussi, parce qu'aujourd'hui ils veulent avancer, ils sont souvent seuls, donc les terrains, il faut voir les terrains qu'on met bien en...
C'est bien pour ça qu'on
Mais je veux dire, il faut pas vouloir mettre partout le béton.
On met rien, on met rien. On peut de parler de la démarche.
Si on peut répondre de manière très précisément à ça, pour le moment, c'est tout le travail qui a été fait depuis un an et demi, deux ans.
Oui, vous rassemblez les informations.
Ces commissions de travail n'ont pris absolument aucune décision sur un périmètre constructible ou pas. Ce n'est pas du tout notre travail.
Ouais.
Il faut bien savoir qu'en plus de ça, nous, notre base de travail à ce niveau-là, c'était ce qu'ont décidé toutes les communes auparavant avec ce qui a été, avec le SCOT, qui a défini ces différentes classifications dans tous les villages. Et tous les SCOT ont été approuvés par les différentes maires, par les conseils municipaux. Donc nous, notre base de travail, elle est là, mais en aucun cas, cette commission a décidé de dire dans telle et telle commune, on va réduire ci, ou dans telle et telle commune. C'est pas notre travail du tout. C'est pas
parce que je vois qu'on réduit les zones agricoles qui sont assez exploitables en terrain, comme à Burnopte, on parlait tout à l'heure, là, Burnopte Haut, la zone industrielle. On a le paysan, il a vendu des hectares de terrain pour agrandir la zone, alors que c'est des terrains facilement cultivables. Et de l'autre côté, on cherche des terrains en pente et quand le gars il se casse la figure pour gaucher.
Et ça,
c'est
pas partie de cette démarche. Il est vrai, je me permets, sur cet après-midi, j'ai assisté à la réunion qui a eu lieu avec Mme Blanchard pour recueillir toutes les informations et toutes. Suggestions des agriculteurs, puisque c'était une réunion agriculture cet après-midi, demain ça sera forêt, j'y serai également, mais c'est justement pour tenter de trouver, pas le compromis maintenant, mais essayer d'avoir tous les éléments qui permettent de trouver un juste milieu, hein, que ce soit en agriculture, en forêt ou d'autres régions techniques.
D'accord.
Voilà ce qu'il y avait eu cet après-midi avec Mme Blanchard et
Et vous, l'agricole était
là.
Mais alors, du coup, c'est intéressant parce qu'on peut peut-être attaquer le travail par la question de l'agriculture.
Ouais. Il y avait juste encore une question qui m'avait été posée avant et il serait intéressant d'y répondre pour que. On a créé deux groupes de communes et c'est pas ça m'a été demandé. Pourquoi il y a deux groupes de communes? Est-ce que c'est dans le déroulé de la vallée, c'est pas tout ça? Est-ce que c'est par rapport à la pandémie, c'est pas du tout ça non plus? On peut aussi comprendre pourquoi il y a deux groupes de communes.
Alors, on commence par rapport à ça.
Bah oui,
parce que ça touche à l'armature, en fait, qu'on appelle l'armature. C'est-à-dire, dans cette vallée, il y a 15 communes. 15 communes. Est-ce qu'elles sont appelées toutes à jouer le même rôle en termes d'équipement de service? En gros, est-ce qu'on peut avoir tout type d'équipement dans chaque commune partout? On a vu certaines difficultés parfois à avoir certains services, certaines commodités. L'idée de l'armature, donc c'est la carte de l'armature. Et là, on va être sur la question de la proximité. Alors, avant de on va pas parler, avant qu'il y ait eu, il y a ce qu'on appelle un schéma de cohérence territoriale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est à une échelle bien plus grande, qui est celle du pays surnolaire, et donc qui fixe là des grandes orientations jusqu'à 2024 sur ce territoire. Et donc dans ce SCOT, le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. Et dans ce SCOT, il y a déjà une armature que vous proposez, qui est celle-là. C'est-à-dire qu'on hiérarchise quelque part le rôle des différentes communes en fonction de leur niveau d'équipement et du niveau de service qu'elles peuvent rendre aux autres communes, soit de toute la vallée, soit des communes voisines. Donc c'est une hiérarchisation, et on retrouve effectivement dans cette armature, Masbo-Middelbru, comme pôle d'ancrage de vallée, ça c'est les termes du SCOT, c'est-à-dire que Masbo-Middelbru a vocation à recevoir tous les équipements qui peuvent rendre service à toutes les communes de la vallée. Donc s'il y a un type d'équipement que la vallée doit accueillir, a priori, le SCOT dit que ça doit être à Masbo. Donc c'est une médiathèque intercommunale, qui n'est pas pour l'instant sur le territoire, on a connu ça. S'il n'y en a pas, et si elle doit se créer, ça veut dire que le SCOT et donc le PM qui doit être compatible avec le SCOT, dira la médiathèque intercommunale, c'est forcément à Masbo qu'elle doit aller. Donc il y a un pôle d'ancrage, pour la vallée Saint-Amarin. Plan cerné, qui va être plan cerné, le Vélino, on l'a ici. Et ensuite, quand on dans la hiérarchie, c'est ce qu'exprime en fait ce schéma, on a ce qu'on appelle des bourgs intermédiaires, qui ont un niveau d'équipement moindre que Masbo, mais qui ont quand même un niveau d'équipement de service de commerce qui permet aux autres villages alentours d'avoir les services nécessaires pour fonctionner. Et la proximité, elle est là. On gère la proximité de cette façon. Donc on a effectivement Burnock le bas, Burnock le haut. On a Saint-Anne qui est le NAT, en matière d'équipement. Et puis on a Oberbruck pour la haute vallée. Et ça, ça définit ce qu'on appelle des pôles de proximité. Et de nouveaux services, commerces, équipements doivent venir s'implanter sur le territoire. À ce moment-là, ils vont être distribués en fonction de leur nature selon ces différents pôles. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir tout partout, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une médiathèque dans un coin des villages, on ne peut pas avoir une gendarmerie au fin fond. Donc il faut bien organiser le territoire pour arriver à capter les éléments d'équipement, de services et de commerce au bon endroit, de manière à ce que tout le monde ait quand même accès assez facilement et au plus proche de ce qui fait les services, les commodités du quotidien ou hebdomadaire. Alors, il y a un petit point rouge qui est effectivement la ZACOM de Burnock le haut, parce qu'effectivement, le type d'équipement commercial, tout comme Masbo, permet à l'ensemble de la vallée, le Super-U, par exemple, permet en fait à l'ensemble de la vallée de vous mettre à chalander à Burnock le haut. Donc, ça définit en fait plusieurs entités. Une entité qu'on a appelée Bourbonne Vallée autour de la ZACOM et puis des services qui sont déjà présents dans les deux Burnock. Un pôle de proximité d'Avant-Vallée avec des services et des équipements déjà présents à Saint-Anne et Guévenac. Et ça, c'est appelé à renforcer donc, les équipements, services et commerces futurs qui seront fléchés, destinés, ciblés en fonction de cette armature. Et puis, un pôle de Haute-Vallée, alors qui est un peu plus complexe parce qu'effectivement, on a le pôle de proximité de la Haute-Vallée autour de Bourbonne. et puis Masbo pour l'ensemble de la. Et donc pour revenir aux réunions publiques, du coup, les deux groupes de communes représentent les communes pour ce soir qui sont ce qu'on appelle les villages, donc c'est tous les points verts. Donc c'est la petite unité, la plus petite unité, je dirais, de vie du territoire, où souvent bon, il y a les commerces, enfin les services, les commerces de base, peut-être encore une école, peut-être une boulangerie. Bon, c'est. Mais il faut aller sur ces villages, il faut souvent aller sur le pôle, le bourg intermédiaire le plus proche, pour pouvoir accéder à des équipements supérieurs. La réunion de demain, c'est regroupe les communes qui sont de polarité d'un niveau supérieur, donc les bourgs intermédiaires, les points orange et le point rouge. Voilà, on a fait ça comme ça. Ça permet à la fois d'avoir des gens de la Haute-Vallée et de la Basse-Vallée dans les deux réunions. Et puis les questions ne sont sans doute pas les mêmes. Voilà, c'était aussi par rapport aux questions, parce que forcément dans la réunion de demain, on va peut-être parler de zones d'activité plus importantes, de grands équipements, et puis ben, aujourd'hui, voilà, de l'accès justement au service pour l'ensemble du village. Et puis de la question de la mobilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question.
Merci beaucoup, Christine Enchel. On vous rappelle en fait que là, on va essayer de développer les quatre boîtes. On a mis des papiers devant. On peut redistribuer pendant qu'on présente ces éléments. Comme ça, vous pouvez noter ce que vous avez envie de nous faire pas. Vous l'évoquez comme monsieur l'a fait publiquement, c'est très bien aussi. Et ça nous servira après de travail plus fort au niveau de l'équipe. Donc voilà, je réinsiste là-dessus. Pour moi, je veux bien passer, voir s'il y a des gens qui veulent un premier papier pour cette boîte
proximité.
Voilà, monsieur.
Et là, on va parler des équipements et des services de commerce, on va parler maintenant du logement.
Et on parlera de tout ça là, parce que je suis désolée, techniquement. Là,
j'ai un peu de. Maintenant, on va continuer en fait sur ce premier thème, qui est la question de la proximité. Nous voulons construire un territoire de proximité, parce que ça repose à la fois sur l'offre de logement, sur l'offre d'équipement et l'offre de service. Donc là, on a vu la façon d'organiser le territoire pour attirer à une offre de services, d'équipements et de commerce, et d'agents.
Ah, je sais.
La deuxième question, c'est la question du logement. Donc, sur cette carte, on retrouve nos différents pôles, mais en fait, comme
les questions pour ça, elles ne viennent que dans deux jours.
Pas trop de problème.
Comment
vous avez des intérêts. Vous avez des
intérêts.
Vous pouvez, je vous donne les différents types de communication que vous avez donnés à votre retard. Je vous montrerai les différents points.
En fait, c'est le nombre de logements à construire chaque année. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de disponibilités. La place dans la nature, entre les points verts, les points orange, les points rouges. Où on va construire davantage de logements là où il n'y a plus des services, d'équipements et de. Alors, qu'est-ce que tu dis là ? À travers. Non, c'est pas uniquement, parce qu'on a quand même débattu du PADD. Donc, la première étape, à travers les ateliers, a abouti à une proposition d'orientation. Aujourd'hui, le PADD, il dit ça. Voilà, au duo, quelques éléments. À chaque fois, le SCOT donne des maximums. Là, à côté, vous avez la consommation d'espace autorisée par le SCOT. Ça représente 1 hectare. Voilà, à consommer sur la durée 2012-2024 pour l'habitat. En gros, le SCOT autorise à l'échelle de votre vallée la consommation, un maximum de consommation de 52 hectares. Ça ne veut pas dire qu'on va les consommer en fonction. Du coup, du projet, du zonage, d'autres objectifs comme l'agriculture, on va sans doute faire en sorte de mieux utiliser les tissus déjà urbanisés. Il y a aussi tout un parc de logements qui ne sont pas utilisés. Donc, une partie de ce parc de logements vacants va sans doute être aussi mobilisée pour éviter de construire ces logements sur des nouvelles zones. Alors, ça nous donne la physionomie, la répartition du nombre de logements. Et de la consommation d'espace en fonction de cette entre la Haute-Vallée, l'Avant-Vallée et la Basse-Vallée, on est à peu près sur la même quantité de logements, c'est-à-dire que sur 12 ans, puisque c'est de 2012 à 2024, 34 logements par année pour la Basse-Vallée, 33 logements pour la Haute-Vallée et 32 logements pour la Haute-Vallée.
Est-ce que ça veut dire 1232 maisons ou de quoi habiter pour 1232 personnes?
Alors, ni l'un ni l'autre, c'est 1030, il faut produire 1232 logements. Ce n'est pas forcément des logements neufs qu'on construit, ça peut être des logements qui sont remis sur le marché.
Oui, mais ça, ça correspond à combien de pertes en mètres carrés, l'unité, c'est quoi?
Logement, c'est. Ça correspond. Alors, devant, il y a des ménages. La taille des ménages dans la vallée, c'est entre 2, 4, 2, 5, 2, 6. Vous multipliez par 2, 4, 2, 5 ou 2, 6 pour avoir la moyenne exacte. Et vous avez le nombre de nouveaux habitants par la production de nouveaux logements. Donc ça fait à peu près 3000. Alors,
si vous me permettez, moi je m'interroge quand même sur la définition des bourgs où on voit sur la base vallée, on va dire, cette taille qui est définie comme étant un bourg, et son niveau d'équipement, on n'a pas plus d'équipement que d'autres villages de la nature. Mais là, il peut être un peu plus. Et donc, une affectation de mouvement assez importante pour Sentheim. Beaucoup de mouvements sur le Zenheim, mais dans une moindre mesure. Donc, je pense que le Zenheim est peut-être un groupe qui est déjà plus important que Sentheim. Donc, la définition du scope d'orienté sur les jours qui sont pas forcément en adéquation avec la réalité du terrain me surprend un peu, notamment sur Sentheim.
On est en cours d'élaboration, parce qu'il y a l'objet effectivement des échanges aussi.
Oui, mais c'est pas en cours d'élaboration. Non, mais il est validé depuis 2014.
Arrêtez.
Il est arrêté depuis 2014. C'est lui qui fixe la définition.
C'est lui qui
la définition, mais c'est là où je suis surpris de voir que Sentheim est défini comme un bourg, même si un nombre d'habitants, effectivement, mais en niveau de l'équipement de service, la définition des bourgs, c'est plus un niveau d'équipement de service. Au bénéfice des autres communes alentour, et pas à 1 million d'habitants, Sentheim n'est pas au même prix que d'autres villages alentour, si je prends l'autre, si je prends sauf l'autre, peut-être qu'on a moins de millions, mais l'autre qui a sa ménage également, qui a ses commerces, mais qui a également ses industries. Donc, je suis un peu surpris de voir le nombre de logements qu'on affecte à Sentheim au détriment du coût des autres communes.
C'est aussi par rapport à l'historique qui a été fait dans le passé. Quand on voit dans le fond de Saubevin, on a 3,5 je le vois bien,
c'est là.
Ouais. Mais c'est aussi par rapport au dynamisme du passé que le calcul a été fait.
Les critères de Scott sur l'armature, il y a aussi le poids de la population, il y a plusieurs critères. Il y a le niveau de la population, la desserte aussi en transport collectif.
C'est ça.
C'est un peu moins prégnant que sur Saint-Amarin, par exemple, par rapport au Marco Trampa. Mais le débat avec le procès de lui, c'est de trouver la bonne armature. À un point, vous êtes compatible avec celle du Scott, c'est toute la commodité de l'exercice. Mais rien n'empêche, effectivement, si le PLU vous justifie, de modifier l'armature en disant, par exemple, comme vous dites, ça ne se justifierait pas sur Sentheim, parce que le niveau d'équipement n'est pas.
Ça se justifie pas plus ailleurs.
Pas plus
ailleurs. Pour moi, ça ne se justifie pas plus ailleurs, si on se rend compte au niveau d'équipement.
Après, il y a peut-être un autre facteur que je peux peut-être entrevoir, Vincent Colette. Est-ce que sur Sentheim, il y a plus de possibilités à l'avenir de développer qu'ailleurs Est-ce que c'est un critère qui a pu être...
La vallée, tout le rétrécissement. Alors...
Si, alors, aujourd'hui, si. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est.
Alors, le scope n'est plus modulable. Le PLUI est à construire, on a bien compris. Mais vous voyez, par exemple, Yévenheim, il a 2,5 hectares. 2,5 hectares pour Guilhem, alors que c'est pas qu'on a 500 ou 6, donc 5.
Alors, vous trouvez maximum, non, ça ne veut pas dire que le PLU, non,
mais je vous dis que la possibilité de l'État, il n'y a pas de travail dans la
vallée. Alors qu'il n'y a pas plus de mouvements dans d'autres villages.
Mais c'est peut-être pas les équipements sont à créer aussi, dans les villes. C'est peut-être une volonté plus spéciale de dire que, par exemple, cette taille ne puisse se développer éventuellement dans l'avenir, que ce n'est pas un état actuel des équipements non plus, c'est aussi des équipements à développer.
Il y a d'autres équipements qui sont en train de se faire, notamment sur des par exemple, qui devraient être à la même taille, c'est quoi l'autre? Ah oui, non.
Alors, oui, parce que je voyais, il n'y a pas la nature, justement.
Il n'y a pas d'armature, mais malgré tout le choix, il est validé depuis 2014.
Oui, mais
les élus locaux doivent normalement prendre en compte les orientations du scot. Alors pourquoi ce genre d'équipement ne va pas à cette taille, mais va à l'autre? Vous voyez, c'est la cohérence.
En fait, vous ne gérez pas les investissements privés, on est sur un investissement privé. C'est celui qui est en train de se faire à l'eau. Donc un investissement privé. C'est mal de le maîtriser.
Donc, à un moment donné, avec les investissements privés, c'est quand même ces investissements-là qui font aussi l'intérêt d'un coup par rapport à la ville.
C'est peut-être l'intérêt du PLUI d'arriver à structurer. Après, je crois, il me semble que lors des différents débats qu'on a déjà eu au niveau de la PENCO, il y a un empêche d'une commune à l'autre. De par exemple, les 5-5 que vous citez à Guévenheim, si Guévenheim demain dit « moi les 5-5, j'en ai pas besoin », ils peuvent aller ailleurs. C'est l'intérêt du PRI aussi.
C'est
une sorte,
c'est qui là aussi
le travail qu'on est en train de faire.
Vous croyez que quand on s'est lancé dans le PRI, c'était pas quelque part aussi avoir un petit peu... On se rendait à la difficulté,
Je vais reformuler la question. C'est pas qui a décidé du transfert, c'est... Vous êtes en train de dire que dans le cadre de l'élaboration du PLUI, on peut imaginer des transferts déjà possibles pour l'élaboration du PLUI. Mais moi, je me projette à 2024. Où, dans les années à venir, si à un moment donné une commune, pour X raisons, ne se développe pas, il n'y a pas de projet. Qui va décider de faire à un moment donné un transfert de nombre de logements ou de surface urbanisable de cette commune vers d'autres communes de la
région? À ce moment-là, je pense qu'on va aller vers une modification du PLUI. Les élus.
Modification du PLUI.
Les spécialistes qui peuvent.
Le scot va être modifié. Le scot, effectivement, il est approuvé, mais vous n'avez pas de PLUI. Donc, il a le scot qui est transcrit dans les documents d'urbanisme. Donc, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. Voilà, aujourd'hui, sans doute pas transcrit parce qu'il n'y a pas eu de révision même des PLU communaux. Donc les PLU ou les POS sont restés tels qu'ils sont et le SCOP n'a pas été traduit. Donc c'est pour ça qu'on peut constater ce décalage entre ce que prévoit l'image projet ou la projection que fait le SCOP sur l'organisation du territoire et ce qui se passe réellement dans les communes avec les documents d'urbanisme d'aujourd'hui. Et la question est de savoir si par le PLUI, du coup, vous voulez viser une organisation du territoire qui est plus efficiente, plus efficace, que vous voulez transcrire dans votre document d'urbanisme, et on revient à l'intérêt de faire un PLUI aussi pour ça, et les formes de consommation, du coup, on est bien obligé de prendre en compte, ce sont des maximums, mais rien n'empêche, en fonction de l'armature qui va décider, de quand même redistribuer les choses. Donc il faut entendre effectivement tous ces questionnements, pourquoi cette taille, pourquoi pas une commune, et voir quelles sont les communes finalement qui ont la capacité d'être des véritables bourgs ou pôles, des polarités du territoire dans lesquelles on met les équipements, les services, les commerces. Et,
Donc j'entends qu'on peut modifier avant la validation du PLU. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il faut obligé d'aller vers une modification du PLUI pour
faire une. Non, le mode du PLUI n'est pas encore.
Avant le 2024, si on voit un déséquilibre s'opérer au niveau des équipes existantes, ça obligera à aller à une modification du PLUI pour opérer ces transferts. Ça, je trouve ça un peu regrettable. Je trouve que ça aurait été même plus judicieux de donner ce pouvoir-là, on dirait, à l'instance qui gère la vallée, hein, je vois que c'est la commission de l'instrument, de pouvoir, à un moment donné, valider le fait de transférer une capacité de logement ou d'urbanisation possible de l'unité de vie vers une commune sans aller
mais
une
modification
lourde et coûteuse d'un PLU.
Mais on y est complètement. c'est bien l'instance qui a la compétence urbanisme, c'est bien la COMCOM. D'accord. Donc à ce moment-là, si vous êtes en train de dire, c'est bien la COMCOM qui, à ce moment-là, lancera, prendra l'initiative. Parce qu'à un moment donné, les élus...
Mais c'est de toute façon une obligation. Mais rendez-vous compte à ce que vous dites justifie tout à fait le fait qu'on a fait un PLUI. Vous vous rendez compte si cette discussion avait eu lieu dans chaque commune, parce que c'était comme ça que c'était élaboré au départ, vous êtes bien d'accord. Oui. Maintenant, pour vous répondre, c'est quelque chose qui doit être vivant. Il faut bien qu'on travaille là-dessus. Et il est sûr et certain que toutes les surfaces élaborées, quand on fera un bilan dans 3-4 ans, on se rendra compte qu'il y a peut-être des zones qui se sont complètement développées qu'on n'avait pas pensé, et puis d'autres auxquelles on a accordé peut-être un gros développement qui ne s'est développé pas, peut-être pas. Mais naturellement, pour le moment, je dirais que c'est l'émanation de... Nous, on n'a pas voulu, c'est plus du monde naturel. Il y a plus de commerce. Non, mais plus.
Ah, il y a des gens que j'ai cités, c'est pas
tout. Oui, on est d'accord.
Pour le reste, oui, je vous rejoins. Mais je trouve que ça manque un peu de soutien dans l'adaptation.
Eh bien, vous savez, les scouts, c'était une grande discussion et tout le monde tombe un peu des nues en disant, mais quand c'est que vous nous avez sorti ce truc-là? Mais c'était au même titre que le PLUI ou le PLUI. Le PLU, ça devait être un grand débat dans les différentes communes. Parce que finalement, il faut bien qu'on se base sur un document de travail.
Qui nous ont bien des règles.
Sinon, on peut. Mais ça doit pas être figé,
On est bien d'accord.
Mais
il faut
l'encourager. Aujourd'hui, effectivement, on a une salle de 2024 qui est celle du SCOT, et le SCOT après 2024 va être édité. Donc le SCOT va regarder dans chacun des territoires du SCOT ce qui va réellement passer. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas atteints? Quelles communes les atteignent pas? En fonction de ça, le SCOT va déjà réajuster. Donc, le PLUI d'aujourd'hui, qu'on est en train d'élaborer, il se fait sur cette période du SCOT, dans les années du SCOT 2012-2024. C'est d'abord, à mon avis, le SCOT qui sera d'abord révisé, et ensuite, il y aura peut-être une révision du PLUI après 2024 pour tenir compte de ces évolutions. Donc, c'est des choses qui se font en cascade, mais pour l'instant, on est effectivement sur 2024, cette horizon, qui est sur l'idée quand même de que le territoire se donne une armature, parce que sans armature, aujourd'hui, effectivement,
vous avez plus de passer.
Vous
voyez, pour finir à ce propos, sur des vénages, on a fait 2,5 hectares, alors que sur la commune de l'Aube, il y en a 3,5. Donc, un jour, on va lui donner moins de possibilités d'urbanisation possible qu'un village, alors qu'il est défini comme étant un ville. Donc, c'est là où on n'est pas très logique de la répartition.
Oui, mais c'était quand même un constat. Des conseils municipaux, si vous voulez, à l'époque, qui diraient comment je peux me développer. Parce que finalement, il y en a qui disent que j'ai besoin d'une grosse surface, ou d'autres communes qui se sont plaintes de ne pas en avoir assez. Mais après, quand vous avez par exemple 3 hectares 5 à développer, et il faut se mettre au travail parce qu'il faut les développer. Ça sera peut-être pas suffisant, je ne sais pas. Mais le maire qui commence à se poser la question, comment je vais développer ma commune, comment je vais développer mon bourg, j'ai 3 hectares, au début ça peut paraître tellement peu, c'est pas possible. Mais après il va peut-être se rendre compte qu'en faisant des investissements très spécifiques, dans un domaine bien précis, il se dira, mais finalement j'ai pas élaboré la moitié, quoi, j'ai pas exploité la moitié. C'est sûrement qui va se passer. C'est d'ailleurs beaucoup ce qui va se passer. C'est d'où la possibilité aussi que tu disais précédemment avant, c'est de dire que la commune à côté qui a élaboré, qui a développé un hectare, on a trop, peut en donner à la commune à côté. D'où l'intérêt du travail qui est fait dans la ville.
Oui, non, c'est bon.
Sur l'ensemble du territoire.
Je rejoins sur votre propos.
Mais on est ouvert.
Ah oui, tout à fait. C'est là où. En 7 ans,
mais comprenez bien que si vous voulez
arriver, c'est pas un objectif de faire ça.
Non, mais si vous voulez, les gens à 3 ou à 4 états, la solution est réglée.
On leur donne la possibilité d'aller jusqu'à 5 états. Alors qu'à d'autres, on leur enlève, c'est tout.
Mais peut-être que Guévenin a un projet bien précis qui demande seulement un état ou un état 5. Et vous êtes là.
Au lieu de construire sur un étage, on en construit sur 4.
Alors, il y avait une question, peut-être une question
en situation. Oui, je vous voyais pas le nombre de
Schlitzberg, deux logements à construire par an, pour 12 ans, il y a 24 logements, et donc 1 hectare au maximum d'extension, de consommation, sous l'espace. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire du logement dans le tissu déjà abonné.
Qui est d'abord le scope?
C'est le pays du volaire tout entier, qui est englobé dans le scope.
Mais est-ce qu'il y a des représentants de la Comcom dans le scope?
Oui, il y a des trois. Ce sont les, il y a donc les trois Comcom que sont celles de Saint-Armarin, celles de Tarn-Cernay et l'un l'autre. Et actuellement, je suis le président du pays du Volaire.
Ben c'est les communes qui ont participé à l'élaboration du scope.
Oui, pardon.
C'est les communes qui ont participé.
Oui, il y a des délégués de partout. Pour le scope.
C'est pas venu du ciel, oui.
Comment ça s'est passé?
Oui, parce que vous avez raconté la question. C'est que les élus locaux étaient impliqués dans l'élaboration du scope.
Ce que je disais, ils sont passés par la même démarche que vous rappelez.
Voilà.
On réfléchit d'abord à la façon dont on veut organiser le territoire, on se fixe les objectifs, là, on est sur les objectifs de production de logement, mais ça peut être des objectifs aussi environnementaux, de continuité écologique, de trame verte et bleue, en définissant ces objectifs, et ensuite, on fixe les règles pour chacune des communes ou chacune des communautés. Donc, ils ont suivi la même démarche, sauf que, ben, forcément, il y a à trouver, donc ils ne sont pas allés jusqu'au bout, alors que nous, sur le PLUI, on démarre. Et on démarre sur les objectifs. Sauf qu'il faut qu'on reprenne les objectifs du
score. Ça ne passe pas très pour l'esprit du
scouting. Alors, on le scouting. On a un zonage à la parcelle, les scouts ne travaillent pas à la parcelle.
Non, maintenant.
Je vais vous permettre un peu.
Eh oui, quand on a utilisé la parcelle.
Je vois sur le tableau, vous êtes sur un quota. Qui doit être supérieur à 15 logements par hectare. Alors, certes, on veut diminuer l'impact de l'urbanisation sur les terrains agricoles, sur les terrains agricoles. Pour autant, dans certains secteurs ou dans certains projets, ce quota-là peut être préjudiciable pour l'opération même, pour la commercialisation ou d'intérêt même à la parcelle. Ce quota, il est figé, il est tout, il est à respecter scrupuleusement.
Il faut savoir que, en plus, alors c'est une très bonne question parce que dans une commune, avant quand on ouvrait du terrain, vous pouviez imposer à la limite une surface minimale. La commune pouvait dire que dans la réglementation d'une certaine zone à développer, vous pouviez dire il me faut minimum 5 arbres, allez, ou 6 arbres par exemple. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, Roche, pour m'arrêter ce que je vous dire, l'État a décidé que stop, il n'y a plus de minima. Donc la commune, en plus de ça, ne peut même pas intervenir là-dessus. S'il y a un lotisseur qui vient et qui vous achète un certain nombre d'arbres, il vous met un certain nombre de maisons là-dessus, sans que nous, on ait à la limite rien à dire. Le maire, c'est pour ça aussi qu'on doit se doter d'un maximum de réglementation pour pouvoir parer à ça. En plus de ça, vous aviez un COS avant par terrain, il me semble que le COS n'est plus respecté non plus. Donc le gars qui disait j'ai 6 arbres de terrain, je peux construire une baraque avec un COS de 1,4, de 1,5, de 1,6, je peux construire une surface, une maison d'une certaine surface. Ça, l'État l'a supprimé également. Il faut bien savoir que nous, maires, on subit toutes ces choses-là, des réglementations qui sont pour justement optimisées pour faire un maximum de maisons. Il n'est pas toujours de bonne.
Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est obligatoire de respecter ce que tu fais avec la phase logement par hectare?
Je parle de la densité, c'est pas un minimum à prendre en compte à l'échelle de la commune. Donc, toute opération, ça ne veut pas dire que vous pouvez, de toutes les opérations, vous faire au moins 15 logements par hectare. Vous pouvez faire des opérations avec moins de 15 logements par hectare, à condition de faire des opérations avec plus de 15 logements par hectare. C'est des petits collectifs d'être au-dessus de 15 logements par hectare et vous pourrez perdre de l'individuel du coup à moins de 15 logements par hectare. Donc c'est une densité qui est prise à l'échelle de la commune, mais les densités sont différentes en fonction là aussi de la place de chaque commune dans l'armature. C'est-à-dire que là où il y a des services, des équipements, on va construire plus dense, il y a plus de logements à construire, et on va construire plus dense. Et ça, c'est lié à des politiques nationales qui ont évolué hein, au cours du temps, parce que c'est pas nous, il nous parle de l'époque des Perses, hein, les choses qui ont duré un poste, ça prend l'occupation des sols, il y a des zones, elles, là, un peu partout, il y a la, elles sont très largement dimensionnées, et les politiques nationales,
la colonisation,
etc., a conduit à limiter la consommation d'espace agricole. Ça, c'est un objectif très fort au niveau des États. Donc, du coup, ça a des implications sur les densités et la restriction des nouvelles zones à construire. Donc on va chercher davantage à construire dans les tissus déjà urbanisés, à remobiliser le logement vacant, et des politiques aussi qui visent à aider pour mobiliser les logements vacants, de manière à aider de construire, à consommer l'espace agricole.
Faut pas trop se soucier des terres agricoles, hein. je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on veut passer une autoroute, on ne demande pas si c'est le paysage qui est gêné ou tout ça. Donc, je vous répète, il y a assez de terres agricoles, et parfois il est très mal exploité, mais il y en a assez. Par contre, quand on veut faire une zone industrielle, on trouve du terrain, on ne s'occupe pas si c'est qui peut nourrir 2000 personnes, on ne s'en occupe pas. Ça fait du boulot, pour ça que tout le monde se déplace de la vallée, vont habiter des Verdina et des Sentai, et on sera juste un village dortoir, et puis voilà, ça sera tout. On part et on vient dormir, comme ça on passe au radar un petit peu, ouais, hop,
Aujourd'hui, effectivement,
les terrains agricoles, il y en a assez.
Il n'y a pas trop de limites.
Sinon, on ne verrait pas des friches, partout des friches.
Mais on est bien obligé d'en parler, on est bien obligé.
Il y a 40 ans, il n'y avait aucun friche. Et les gens travaillaient à la main. Aucune friche. Oui. Aujourd'hui, il y a des terrains sur des hectares en friche. Il n'y a plus personne. Parce qu'il faut travailler à la main. Voilà.
Oui, ça c'est.
On verra,
c'est une évolution de la société.
Ah oui, on a évolué chez les feignants, voilà.
Donc on a vraiment fait quoi, parce que sur les fiches agricoles, effectivement, il y a un certain nombre d'orientations. Mais d'où l'importance de fixer des orientations, justement.
La densité, elle va un peu à l'encontre du cadre de vie pour les typologies de communes qu'on a, qui sont les villages, qui ont un cadre de vie avec de l'espace. On n'est pas dans un lotissement de centre urbain. Et imposer ce quota-là dans les petites communes, les petits villages ou autres, où les gens recherchent avant tout d'avoir de l'espace vert et d'avoir un cadre de vie intéressant autour de leur logement, ça revient à dire on va presque faire des cages à lapins, excusez-moi du terme, et densifier en même temps des logements l'un à côté de l'autre pour diminuer un maximum la consommation d'espace.
Sur les réunions de la communauté commune qu'on avait, je vais même dire aux personnes qui sont présentes ce soir qu'on a toujours parlé des dents creuses. C'est un truc qui fâche parce que dans les petits villages, on a un espace de vie comme monsieur Lé. Et donc, les dents creuses, j'aime bien signaler qu'il faut faire attention à ça parce qu'avant de faire une extension, il faut rentrer les dents creuses. Et forcément, il n'y a pas tout le monde qui veut juste la maison à côté. Donc, il faudra faire attention à ça. Et la deuxième chose, vous le savez que. Au niveau des logements sociaux dans notre vallée, on est en manque. Donc, est-ce que c'est déjà calculé dans vos chiffres?
Alors oui, dans le PLD, je peux le citer. Je crois que
c'est pas en termes de logements sociaux spécifiquement.
Alors, je rappelle que ce PLD, il est téléchargeable sur le site de la communauté de communes. Donc, vous y avez accès. Alors, c'est des logements locatifs, sociaux ou privés. Donc, il y a une augmentation qui vise avec les 15% de la production globale de logements supplémentaires à l'augmentation du parc locatif social et privé. Mais après, toutes les questions, c'est des questions qui demandent d'arbitrage. La démarche du PLUI, elle va devoir arbitrer entre la question de la consommation des terres agricoles, la question du cadre de vie, de l'intimité, de la façon de construire. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de son espace et du sol.
En fonction de quels critères et qui va décider par rapport à des terrains donnés dans les villages, si ce terrain est à construire ou pas.
Et bien, à partir de ce projet d'aménagement et développement durable, c'est très orientation générale que vous avez dans le document, c'est les élus, bien sûr, c'est les élus, mais à travers le Oui, mais il faut bien préciser qu'en fonction des priorités qui sont fixées dans ce PAGD. Monsieur Hirte disait, effectivement, la priorité doit être donnée à d'abord construire dans les tissus urbanisés avant d'aller consommer à l'extérieur des nouvelles surfaces agricoles.
Ça, c'est non, c'est le PAGD. Non, c'est pas ça, je crois que c'est pas ça. Comment,
sous quel
critère on va dire, voilà, ce terrain,
bah
oui, il sera
constructible,
celui-là,
bah
non, il sera pas.
Sans que ce soit le terrain. Alors, comment on dit la dessert est par exemple. Voilà, la dessert, le concept du centre, qui est l'école très loin, les courtes distances, les équipements. On va construire plutôt proche des équipements, sinon, effectivement, si on construit trop loin. Ben, c'est plutôt là, on va prendre la voiture. Voilà. Donc c'est cette petite orientation qui.
Mais du coup, c'est un cercle vicieux, parce que, enfin peut-être, parce que le Haute-Vallée, qui a priori n'est pas amené, là d'après les Scott et tout, à accueillir des éléments particuliers collectifs, donc à moins d'occasion de se développer ou de machin, comment on va faire pour que ça ne se désertifie pas juste? Donc que ce soit pas déjà comme c'est maintenant, plutôt un Haute-Vallée d'Orthoix. Et alors, puisque tous les, a priori, les investissements, les choses vont être concentrés devant, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces Hautes-Vallées?
Je pense que dans la vallée, le village, il peut
vivre. Il faut
des maisons pour vivre.
Tous les commerces de proximité, tous les commerces de proximité peuvent être dans le village.
Oui, mais ils ferment.
Les banques, par exemple.
Ils ferment, les banques ferment, le commerce ferme, les banques ferment, les écoles ferment. Faut être cohérent.
Qu'est-ce que vous voulez développer dans la vallée? Toutes les routes sont fermées. Traverser un village en zigzag, il faut une demi-heure. Qu'est-ce que vous voulez encore développer dans la vallée? Je me demande.
Non, mais bien, non. Les motos, elles y arrivent. Hein.
Ah, les motos, elles y arrivent.
Rassurez-vous, c'est quelqu'un.
Il n'y a pas les camions.
Ah, bah encore heureux.
Demain matin, on ne va pas arrêter les constructions dans le monde de la vallée. Hein. C'est pas du tout ce que dit ce chemin-là.
Non, c'est pas un truc. Je ne suis pas aussi sûr que les choses ne peuvent pas s'inverser. Je peux vous dire que.
Ah bon?
Mazou, il est rouge. Il y a une chose comme 25 ans en arrière. Quand je m'adresse à ces jeunes et que je leur demande pourquoi Mazou et un échange. Là, les jeunes me disent 9 fois sur 10. Je préfère faire 30 à 40 km en voiture pour aller sur mon lieu de travail, mais habiter dans un endroit comme celui-là.
Au début.
Dans l'environnement où je suis. Revenir ici le soir, revenir ici en week-end, c'est quand même autre chose que d'être dans des endroits beaucoup plus denses, beaucoup plus. Voilà, il y a encore cette. Et je pense que les générations qui ont moins de cheveux blancs que moi sont beaucoup plus sensibles à ça que nous, on a peut-être été pendant nous. Il y a des jeunes qui ont vraiment envie de revenir dans des secteurs où le cadre de vie, c'est pour ça qu'on met aussi le cadre de vie en avant. Quand la Comco met en place un service à la petite enfance comme il en existe un chez nous, où tous les jours on a un peu plus de 600 gamins pour que les parents aient cette possibilité-là, pourquoi je pas aussi qu'on fait des choses pour que les gens puissent rester chez nous, puissent s'installer chez nous.
Je te donne raison, mais il faut laisser la possibilité à nos jeunes qui veulent construire dans la vallée, qui peuvent construire. Parce que avec les dentreuses, avec tout ça, il faut laisser la possibilité. Il faut qu'on ait une ouverture d'esprit, il faut qu'on sache, parce que t'as un gamin qui veut construire. Ah non, on ne peut pas. Ouais. Ah, là, on est en cas, hein, dans le village, hein, c'est.
Ils sont pas
possibles. C'est ça, nous, de retenir les jeunes. Il faut leur proposer.
Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de terrain construit de la cité.
Mais si, après il y a des propriétaires qui ne veulent pas vendre des terrains.
Pas des propriétaires qui ne veulent pas vendre. Mais pour un jeune, il peut construire, il faut laisser la possibilité.
Il y a autant d'objectifs en termes de production de logements sur la Haute-Vallée, la Grande-Vallée, la Haute-Vallée, 34 logements.
Oui, mais ce que vous faites, et monsieur avait raison, sur Sainte-Time, 5 hectares, bon, à moins de développement économique, mais vous avez dit la priorité d'Ancreuse. Moi, je ne vois plus tellement trop à Sainte-Time et d'Ancreuse pour faire les 5 hectares. Donc, on va quand même consommer du terrain agricole. Il y a parfois des incohérences à nous de les travailler. Attendez, on est au début, mais je me permets de le signaler. Donc, à nous de voir, là, on peut encore améliorer notre situation.
Mais là, je suis tout à fait d'accord, il faut laisser la possibilité aux gens de construire là où ça leur plaît. Moi, j'ai ma fille, nous, on a un terrain, il n'est pas construit, il n'en est plus. Il était avant et tout d'un coup, il est plus.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de.
Il a passé en zone à AUB sans que personne ne sache comment.
Mais si, quelqu'un savait forcément. Alors que quelqu'un a pris la décision. Dans votre commune, il y a quelqu'un qui a pris la décision.
C'est Colmar qui a décidé de passer en zone. Pour faire un lotissement. Ça fait 10 ans, il y a quand même.
Oui, mais ça, c'est pour l'instant, c'est dans les communes. Il y a encore une commune dans la vallée qui n'a pas de document d'une famille du tout. Là, je vous assure que c'est pas simple. À gérer, quand il n'y a pas de règles, ça c'est autre chose.
Le RNU, ça vous donne des règles à la commune, mais ça ne vous structure pas, ça ne vous organise pas un territoire.
Est-ce qu'il y a d'autres quotas à imposer comme ça, comme les 15 logements en hectare ?
Ça, c'est des minimums. En fait, tout se tient sur les densités, les objectifs de production, les terrains qui sont disponibles. Donc après, effectivement, par rapport à cet objectif, ce qui est le projet, on va commencer à trouver un plan en train de zoner. Et là, on va se poser toutes les questions d'arbitrage et de voir combien on va consommer pour produire, pour atteindre les objectifs de notre
budget. On a d'autres choses à dire.
Collectif, c'est justement la couleur, entre la couleur bleue et la couleur noire des bâtiments, c'est la répartition entre logement collectif et intermédiaire et logement individuel. Donc, en noir, là, vous avez le nombre de logements à produire chaque année pour chaque commune. Et donc, le chiffre représente, en fait, par exemple, Sainte-Time, qui doit réaliser sur ces 20 logements à produire chaque année au moins 45% de logements collectifs et intermédiaires. Donc, intermédiaires, ça veut dire qu'il y a des, par exemple, des maisons jumelées. Vous faites de l'habitat individuel en vente ou jumelée. C'est du collectif ou de la maison jumelée. Donc, plus on est effectivement dans un niveau d'équipement important, plus on produit de logements locatifs. Et c'est pour ça d'ailleurs que les densités, vous voyez, elles sont pas 25 et pas 15. Tout ça, ça se tient entre le nombre de logements collectifs, la densité et le niveau d'équipement de la commune.
Et donc, si on prend la commune de l'Aube, elle est là, 70% de collectifs à faire.
Alors, c'est 20% de collectifs, au moins 20% de collectifs et d'intermédiaires à faire. Donc ça fait un logement sur les 5 qu'elle doit faire chaque année sur 2 ans.
C'est le bleu ciel.
Voilà, le bleu ciel est effectivement collectif intermédiaire. Oui.
C'est le bleu ciel.
C'est ça, le bleu ciel.
Et
imaginez
que
l'Aube
soit
un
adopté, mais si les quotas sont pas respectés, les clients qui vont en mer, est-ce qu'il y en a pas de ou est-ce que... Donc on peut envoyer à fond, faites-vous.
Vous n'êtes pas obligé d'atteindre des objectifs. Oui, vous pouvez, à terme, pendant le bilan du PLU en 2024, peut-être que les objectifs ne seront pas atteints. Alors attention, parce que ce que va faire le SCOP, c'est qu'il va faire le bilan.
Il a regretté les choses par rapport au système. Et c'est pour ça qu'on arrive à un calcul entre Sainte-Time qui, d'après certaines personnes, n'est pas cohérent. C'est par rapport à la chine qu'on a besoin de parler. Le premier document qu'on a eu, c'est le calcul, c'est ce chiffre. Je veux dire, la pénalité qu'on aura, c'est une pénalité. À la fois, dans la 2024, si on n'a pas les objectifs, eh ben, on sera un peu pénalisé peut-être sur la répartition.
Parce que les calculs dans le SCOP ont été faits en fonction de la réalité et des risques précédents de construction. Voilà, donc il y a des communes qui devraient avoir plus et sur lesquelles le SCOT a tendance à constater qu'il n'y a pas tant
de choses. Parce qu'il y a des événements qui ont fait que si par exemple, un tellement de logements, c'est parce qu'il y a eu la délibération. On a eu beaucoup de logements construits suite à la délibération. Donc c'est ce pari qui a fait que. Donc si c'est pas un événement, il y a peut-être un truc qui a un problème. Il y a peut-être eu un événement. Un élève qui était dans le même ou un truc comme ça.
Avant, vous disiez que ces objectifs d'hectare, de logement par hectare, c'était les maxima. Là, vous avez dit maintenant oui, non, de surface constructive là, au maximum. Hein. Là, vous avez dit maintenant que c'était un objectif, ce qui sous-entend que c'est souhaitable. Et du coup, oui, par rapport écologiquement parlant, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Je ne sais pas. Hein. D'aller jusqu'à ces dizaines d'hectares, là, maintenant, de...
La consommation d'espace est un maximum, ce n'est pas un objectif.
L'objectif... Je n'ai pas compris ce que vous disiez alors, là, juste alors.
L'objectif, c'est la production de logements. Il y a des objectifs de production d'un nombre de logements. Ça, c'est un objectif, mais il peut ne pas être atteint. Et pour atteindre cet objectif, ben, c'est effectivement produire ces nouveaux logements. Donc, de différentes manières, soit remobilisant des logements qui existent et qui sont vacants, ou en construisant des nouveaux. Soit dans les tissus des urbanisés, soit avec un continu. Je ne vous ai pas dit que, effectivement, on ait besoin de consommer ces maximums. Après, on va regarder précisément. On peut prendre un tissu, des logements qui sont vacants, et ce qui est une orientation qui dit qu'effectivement, dans les communes qui ont des taux de vacances importants, on va mobiliser une partie de cette vacance pour remettre des logements sur le marché. Donc, c'est autant ou moins de logements neufs à construire qui vont consommer cet espace. Donc ça, c'est plutôt un cadrage général avec des maximums pour la consommation d'espace, des minimums pour la densité, un objectif de production de logement et un minimum de construction, de pourcentage de construction de logement collectif. Voilà, ça c'est le cadrage. Après, là-dedans, quand on va commencer à regarder les terrains disponibles, où ils sont situés, etc., forcément, le PMU, ça va se préciser et on ne consommera plus pas. On n'est pas obligé de consommer les hectares, les 52 hectares maximum, on n'est pas obligé de les consommer.
Moins de 16 hectares, on sera par rapport à votre question.
Oui, est-ce que vous parlez.
Ce qui est sous-jacent derrière, pour moi, c'est aussi le mode de planisme, mais il y a peut-être une rupture aussi à faire dans le texte, c'est qu'on ne peut pas avoir des maisons avec sur 20 hectares dans toute la vallée, parce qu'on va utiliser des surfaces pas possibles. Donc là, il y a quand même, je pense, dans le cadre du PRU, c'est l'État qui nous invite à faire ça. Ça, c'est des garde-fous du législateur. Et donc, je pense que c'est des choses qui doivent être mises sur la table. C'est des vrais choix collectifs à faire. Mais concrètement, si chaque commune veut des surfaces, des maisons individuelles, environnementalement, c'est pas rassurant.
C'est dans l'état de friche.
On ne peut pas vivre comme il y a 5 ans. L'exemple que je vous ai donné est bien parce que là on consomme 50 hectares pour faire les 1200 euros.
C'est la façon dont on occupe l'espace collectivement. L'espace, on a besoin pour construire, on a besoin pour cultiver, on a besoin pour le cadre de vie, donc le PMU, il faut qu'il arbitre tout ça. Si tout le monde consomme 20 heures pour sa maison, demain, il n'y a plus d'espace agricole en fonction. Tout est mangé par l'organisation, par les arrêts.
L'objectif de prendre un blocage de terrain par collectif alors que 15 ans après, rien ne fait.
Alors ça, le PLU, il va tout faire. Le PLU, il a, c'est terminé direct. Si les choses se font pas, elles se font pas. C'est-à-dire qu'après, sur les opérations, s'il n'y a pas d'opérateur, si le marché n'est pas là...
Oui, mais est-ce qu'on peut penser au bout de 15 ans, puisqu'on est en train de refaire le puits, cette zone qui a été bloquée et qui... j'allais dire que ça permet à quatre propriétaires d'être bloqués aussi par leur terrain, puisqu'ils ont une partie de leur terrain qui a été bloquée en AUD. Bon, si on lève cette AUD, les propriétaires redisposent de leur terrain et peuvent le vendre en terrain pour des maisons individuelles. Est-ce que ça, éventuellement, c'est possible, puisqu'en 15 ans, il n'y a pas eu de collectif de
prêt. Je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas fait le collectif. On a parlé de la parcelle.
Mais c'est pour intellectuellement, c'est plus simple.
Intellectuellement, c'est pour
ça
dépend.
En fait, c'est pas très
pratique. Mais ça dépend de cette zone. Est-ce que l'urbanisation de cette zone-là répond aux objectifs du PLU? C'est ça?
En plus, c'est une zone qui n'a pas d'accès à aucune rue. C'est une zone enclavée. Donc, nous, propriétaires, on a appris que c'était comme ça. On a été quand même. Ah, si, vous pouvez
répondre. Il n'y a pas de zone en
place. C'est un rectangle, mais ils sont très bien. La preuve, si on prend compte de ce qui a été décidé en 2003, qui ne s'est pas réalisé, est-ce que dans le nouveau pays, on en tiendra compte?
On en tiendra compte en fonction des nouveaux objectifs fixés par le PLU. Est-ce que cet aménagement de zone il répond aux objectifs? Si elle répond aux objectifs, la zone sera supprimée.
Oui, parce que c'est
une
question de l'entrée, c'est comme ça qui touche déjà un peu aux particuliers, il faut commencer à l'évoquer. Vous invitez tout fortement, déjà ce soir, à inscrire sur le petit papier qu'on vous a donné vos questions, vos remarques bien précisées. Vous n'hésitez pas à donner des précisions. Et vous avez aussi, par commune, un registre communal où là, chaque mairie, allez-y, inscrivez ces éléments puisque ça peut partir de la concertation. Malheureusement, nous sommes un peu désolés ce soir, que des frustrations et de ne pas pouvoir vous répondre à tous vos cas particuliers parce que voilà, comme vous comprenez, on est dans une phase vraiment préparatoire et de réfléchir à quels sont nos besoins et comment ces besoins sont de l'ordre de l'intérêt collectif et intercommunal aussi. Donc vos besoins privés, nous les prenons en compte. Malheureusement pas ce soir, mais n'hésitez pas à nous les inscrire pour qu'on puisse les tenir en compte au moment où vous
voulez. Non, mais l'intérêt collectif passe avant l'intérêt particulier. C'est ça.
Les deux arrivent à se rejoindre. À un moment donné, l'exercice, ça va être. Les objectifs, les orientations, c'est l'intérêt à priori collectif. Et après, les intérêts privés ne sont pas forcément contraires toujours à l'intérêt collectif. Donc on verra, certains sont contraires, comme peut-être des zones qui ne sont pas reconduites, et puis d'autres, non, effectivement, on va voir tout de suite.
Mais du coup, n'hésitez vraiment pas à noter les éléments pour nous, c'est très précieux et dans l'enfant.
J'avais encore une question, si vous me permettez. Je considère que ce plan-là, c'est plus important.
La mature.
La mature, c'est vrai. Le reste, bien sûr, c'est des orientations générales qui se mettent en œuvre, protection de l'environnement, des cyclables, des plateformes, des institutions. Mais ce document-là, c'est plus important parce que ça va toucher tous les propriétaires et tous les acteurs. Ce que je crains, en fixant des quotas, comme on vient de voir, 15 logements par hectare, un certain nombre de collectifs dans chaque commune, c'est que les gens qui ne voudront pas aller dans ce sens-là, c'est-à-dire un propriétaire qui a, par exemple, je sais pas, 15 hectares, 15 arbres de terrain actuellement, vous donne urbaine, dit urbaine, aujourd'hui, qui sera reclassé peut-être de nouveau en zone urbaine dans la construction immédiate possible, je crains que celui-là soit pénalisé par une taxe à venir. Parce qu'il va construire sa maison sur 15 hectares, alors qu'on lui a dit non, le PLUI, il oblige les gens à aller sur des surfaces plus petites, et donc comme vous avez construit sur 15 hectares, eh ben, on va vous taxer parce que vous n'avez pas utilisé la surface pour faire plusieurs logements. Et ça, c'est une grande dérive qui n'est pas normale.
Je vous rassure, ce n'est pas au niveau de la Comcom, ni au niveau du PLUI, que ça, c'est en train de se mettre en route. Si vous posez la question, c'est que vous savez très bien pourquoi vous la posez.
Je la pose.
Ça va très bien.
Mais je l'explique tout de suite. Je la pose pour que tout le monde.
Parce qu'elle existe sur le plan national. C'est une loi. C'est dans le cadre de la zonalisation que si vous mangez trop d'espace, une taxe en bas. Vous savez très bien.
Mais c'est quoi le trop d'espace?
Où est la loi? Ça, c'est pas. Il y a des législateurs qui sont là pour ça. Et ça va dans le sens de la généralisation des documents d'urbanisme. Et ça, c'est pas nous. Il
Ça, il ne faut pas venir nous charger. Nous,
vous êtes des élus locaux. Excusez-moi, je vous incrimine pas du tout, mais vous êtes des élus locaux.
Oui.
Vous êtes en relation avec des députés qui vont à Paris défendre les intérêts des gens. À un moment donné, prenez de l'environnement, on va fixer des règles au niveau national. Mais on a quand même l'ensemble du territoire, des cas particuliers et des zones qui méritent d'être regardées un peu différemment. Je pense que la vallée de Mazo s'en est une.
Oui, tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec cette loi, comme avec beaucoup d'autres lois. Et quand je discute avec l'un ou l'autre député et que j'interpelle, je dis « Mais comment tu as pu voter un truc pareil ?» Vous savez ce qu'il me répond ? Écoute, il y en a une pile comme ça, j'arrive jamais à lire l'ensemble, et c'est tous les services qu'ils font, et puis nous aussi.
Mais tu changes de métier.
C'est quand même...
qui partage le salaire, et puis on s'occupe de ses dossiers.
C'est pas capable.
Alors après, ces quotas vont obliger les gens à diviser leur terrain pour mettre plus de logements s'ils veulent faire une opération, ou alors ils vont sortir le porte-monnaie.
Voilà. C'est ça que je viens de voir.
Je propose de revenir au PMI parce que le PMI, par rapport à la question de la fiscalité, il dira rien, il fera rien.
Les coopératives avancées là vont induire la règle pour la fiscalité derrière.
Pour vous rassurer, j'ai oublié de préciser que ces densités minimales, elles s'appliquent à des opérations nouvelles. Donc elles ne s'appliquent pas à la parcelle qui n'est pas construite dans le tissu. Donc rien ne vous empêchera, au contraire, parce que le PMU privilégie, veut donner la priorité à ce que les gens construisent sur leur parcelle libre dans les parties déjà urbanisées. Si vous avez une parcelle de 15 arts, vous pourrez construire dessus. Donc là, vous êtes obligé de faire un collectif sur une parcelle de 15 arts. Les densités et les répartitions, c'est à l'échelle de la commune, et la densité, c'est pour les opérations nouvelles. La notion d'opération, c'est une partie de plusieurs leçons. Voilà, j'apporte cette précision.
Ils veulent enlever la taxe d'habitation pour 80%.
Pas pour enlever la taxe d'habitation.
Oui, mais